Dans cet épisode, je vous raconte le déroulé de ma transatlantique, je vous parle du mal de mer que j'ai eu au début, et je vous parle du quotidien sur un bateau, de ma transatlantique, donc avec l'équipage que je vais présenter, le bateau, ses défauts. Transatlantique qui a eu lieu du 25 janvier 2024 à la mi-mars 2024, donc en gros 50 jours de navigation entre La Rochelle et la Martinique, en passant par les Canaries, le Cap-Vert et les îles Vierges britanniques. Générique. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Alors déjà, cette transatlantique, je voulais la résumer en quelques mots, mais il y a trop de mots, il y a trop d'émotions, il y a trop de choses. C'est compliqué de définir ça. En fait, c'est une expérience extraordinaire. Vraiment, pendant cette transatlantique, je suis passé des pires moments de ma vie où j'ai remis en question tout mon projet, où je me demandais, à peine 24 heures après que mon voyage ait démarré, je me demandais si j'allais pouvoir continuer, si en fait, 24 heures plus tard, j'allais pas devoir arrêter ce voyage et le remettre en question, le réimaginer, peut-être pas faire du stop, peut-être partir dans l'autre sens. C'était vraiment le pire du pire, je pense, j'espère, de ce voyage qui commence seulement et aussi le meilleur avec des couchers de soleil de malade, des dauphins tout le temps, une super ambiance avec l'équipage. Donc voilà, c'était un mélange d'émotions très négatives et très positives et le tout augmenté par l'isolement et le fait d'être complètement perdu au milieu de nulle part. Donc c'est pour ça, c'est difficile à résumer en quelques mots. Je vais déjà vous faire en fait chronologiquement comment ça s'est passé. Donc cet épisode fait référence, c'est la suite d'un épisode précédent qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de podcast, TDM numéro 1, donc Tour du Monde numéro 1, et qui correspond à ma recherche de bateau qui a duré 3 semaines à La Rochelle et plusieurs mois au total. Et puis aussi, c'est aussi chouette d'écouter un autre épisode sur la transatlantique avec Estelle, qui a réalisé une transatlantique l'année dernière et puis qui donne tous ses conseils à la fois pour la recherche de bateaux et puis pour la transatlantique, pour gérer le mal de mer, pour elle nous décrit un peu sa transatlantique à elle qui a eu lieu l'année dernière. Donc moi, comme je le disais, ça a commencé donc le 25 janvier 2024. On s'est rencontré avec l'équipage dès le 23 janvier 2024. Et le 25, c'était le grand départ. Un élément phare d'une transatlantique, c'est quand même l'équipage et le bateau. L'équipage, je l'ai rencontré le 23. Et en fait, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'équipage parce que en fait, même si on a trouvé un bateau, si avec l'équipage ça se passe mal, bah peu importe qu'on ait trouvé un bateau pour traverser l'Atlantique, on ne traversera pas l'Atlantique avec ce bateau, surtout en partant de La Rochelle. Et moi, en arrivant et en serrant la main au capitaine, direct, j'ai su que ça allait bien se passer, parce que il dégageait une assurance et un sérieux. Surtout, il était connu d'autres personnes à La Rochelle, donc il m'avait confirmé que c'était quelqu'un de sérieux, et j'ai su que ça allait très bien se passer. Donc l'équipage était composé du capitaine, que je vais appeler Dieu dans cet épisode. Il y avait aussi un ami du capitaine qui avait quelques compétences en bateau aussi, qui avait déjà réalisé des voyages en bateau, que je vais appeler Philou dans cet épisode. Il y avait évidemment donc mon équipier que certaines personnes connaissent déjà, qui s'appelle PA. Lui, je lui donne pas un surnom, c'était vraiment PA, Pierre-André son prénom. Et puis il y avait un autre couple avec Capitaine Barbossa, qui était donc le capitaine qui avait fait plusieurs fois le tour du monde en bateau, qui était monté sur plein de bateaux, et puis sa femme que je vais appeler Calypso en référence à Pirates des Caraïbes. Donc le capitaine donc Dieu, lui il avait plusieurs expériences de convoyage, il avait déjà fait des transatlantiques, jamais en tant que capitaine comme il allait le faire là, mais il connaissait bien les bateaux, il connaissait bien le bateau sur lequel on était, et il avait un gros passé dans la mer, il connaissait tout sur la météo, sur les cartes, il pensait qu'à la sécurité et au bien-être du bateau, donc on avait vraiment toutes les bonnes conditions pour partir en sécurité, ce qui est quand même essentiel quand on part au milieu de l'Atlantique, donc ce côté très rassurant, et surtout un background très intéressant. C'est une personne que j'aurais jamais croisée ou alors dans un blablacar, mais une personne qui a travaillé dans la marine nationale, qui a été chauffeur de car, qui a été chauffeur de métro, qui était moniteur sur des bateaux à Marseille, vraiment des expériences super intéressantes. Son ami Philou, Lui, pas du tout le même profil. Lui, il gérait des appartements qu'il avait achetés, qu'il avait rénovés. Et pareil, c'est une personne que j'aurais jamais rencontrée dans la vraie vie. On n'avait pas du tout le même background. PA, qui avait mon âge, qui était ingénieur, pas dans le même domaine, mais qui avait aussi un projet à peu près similaire. Lui, c'était pas en stop, qui faisait le voyage. Il voulait traverser l'Atlantique en bateau, mais ensuite il vise l'Amérique du Sud. Donc voilà, on avait un petit peu un projet assez similaire et un background assez similaire. Et donc le couple dont je parlais, donc Capitaine Barbossa, qui lui avait des histoires extraordinaires. Donc lui, il est monté sur plein de bateaux, il y travaillait pour des constructeurs de bateaux et il avait des histoires, mais je sais pas combien il en avait, il a dû en raconter au moins 20 ou 30. Tous les soirs, il avait une histoire différente, une histoire de bateau, de voyage qui s'est mal passé, de règles de sécurité qui n'ont pas été respectées. Et vraiment, mais toutes ces histoires extraordinaires, il mériterait un podcast et je me demande aujourd'hui pourquoi est-ce que je l'ai pas enregistré. Et puis donc sa femme Calypso, qui elle aussi avait déjà un petit passif dans le bateau, qui était montée sur plusieurs bateaux, qui avait déjà fait une transatlantique retour. Voilà, tous les quatre en tout cas, c'était des profils que j'aurais rarement rencontrés dans ma vie, donc c'était super chouette d'être avec eux. Et puis PA, comme on va le voir par la suite, qui a été un équipier vraiment, ça a été un super binôme et qui passait la transatlantique. Donc voilà, ça c'était pour l'équipage. Le bateau, lui, c'était la marque Bali 4.6, donc ça veut dire 46 pieds. En gros, un appartement parisien de deux chambres. Bah, c'est un bateau qui est plus grand. C'est un bateau absolument énorme. Il est super haut. Il avait 5-6 mètres de prise au vent, donc c'est-à-dire le bateau en lui-même 5-6 mètres. Et puis après, il avait un énorme mât. C'était après avoir passé 3 semaines sur les pontons de La Rochelle, c'était exactement le genre de bateau que je voulais avoir parce que c'est le luxe que je mérite, super confort. Et c'est un bateau qui est donc c'était un convoyage, c'est-à-dire que le bateau était construit à La Rochelle et il fallait l'amener aux îles Vierges britanniques, donc de l'autre côté de l'océan, dans les Caraïbes, au nord des petites Caraïbes. Et à la base, il devait nous déposer en Martinique ou en Guadeloupe. Et amener le bateau tout seul avec son ami, donc à deux, il devait amener le bateau aux îles Vierges britanniques et nous déposer du coup dans les petites Caraïbes, en Guadeloupe ou en Martinique. Au départ, donc le départ s'est fait vers 14h et je pensais que je serais super heureux de quitter le port de La Rochelle après avoir passé 3 semaines là-dessus. Et en fait, j'étais super stressé, j'étais super inquiet d'être malade, inquiet que ça se passe mal. C'est comme si tout mon voyage reposait dans ce départ, parce que si on partait pas, on était quand même fin janvier, la saison des départs, c'est plus novembre, décembre, janvier quand même, mais j'avais eu cette opportunité en 3 semaines de recherche, je me disais que j'en aurais pas d'autres, donc c'était vraiment un peu la dernière chance. D'ailleurs, une autre personne qui faisait du bateau stop n'a pas réussi à quitter le continent, et après 45 jours de recherche à La Rochelle, a trouvé un bateau pour aller au Portugal, et c'est tout. Et il a dû laisser tomber son projet. Donc ouais, je savais que c'était un peu ma dernière chance, donc j'étais stressé que tout se passe bien. Il fallait que tout se passe bien, sinon mon voyage entier était remis en question. Donc j'étais stressé. Au début, donc on est parti, le port de La Rochelle qui s'éloigne et tout se passait bien. Le bateau était très très stable. On était lancé et vu que c'était l'hiver, le soleil mine de rien commençait à se coucher 16-17 heures. Et pourquoi tout se passait bien? Pourquoi le bateau était très stable? C'est parce que en quittant La Rochelle, il y a l'île de Ré et l'île d'Oléron qui protègent un peu tout cet environnement. Mais une fois qu'on a dépassé les îles, eh ben l'enfer a commencé. Parce qu'une fois qu'on a dépassé les îles, il commençait à faire nuit, le soleil s'est couché, et très rapidement il a fait nuit. Et en fait, dans le bateau, de jour, c'est super agréable, parce que le bateau, c'est un catamaran qui a des fenêtres tout autour, donc on voit l'horizon. Et pour le mal de mer, c'est conseillé de voir l'horizon, donc ça c'est une bonne chose. Sauf qu'une fois la nuit tombée, le bateau se transforme en une sorte de petit conteneur où on voit plus rien et c'est comme si on était dans un salon qui bouge dans tous les sens. Au moment du repas, donc vers 19h, c'est pas moi qui ai cuisiné parce que je commençais à me sentir mal et je commence à connaître maintenant les effets du mal de mer, c'est-à-dire une grosse somnolence, on commence à bâiller, et une somnolence pas normale, genre on pourrait s'endormir d'un coup, ça dure peut-être une demi-heure. Et petit à petit, on commence à avoir la nausée, donc moi je prends une barre de céréales pour que ça passe. Je restais en haut, donc ce qu'on appelle le flybridge, c'est au-dessus du bateau, là où il y a l'équipement pour contrôler le bateau, les moteurs avec le radar et tous les équipements, quoi. Donc je restais là-haut et je commençais à voir que ça allait mal. On n'avait pas des conditions dantesques du tout, c'était même très plat. On avait une houle de 3 mètres, donc c'est-à-dire entre le creux et le sommet d'une vague, c'est 3 mètres, mais une périodicité de 14 secondes. C'est-à-dire que on est à 3 mètres, on redescend pendant 7 secondes et on remonte pendant 7 secondes. C'est des grandes, grandes vagues qui sont très douces et on les avait un peu de face, donc ça raccourcit un peu. C'est peut-être moins agréable que de l'avoir de dos, mais ça bougeait franchement pas beaucoup. Mais moi, ça m'a suffi. Je suis un terrien et ouais, j'ai commencé à me sentir très mal. Donc vers 19h, 20h, le capitaine Barbossa et Calypso, ils avaient cuisiné une petite soupe, et donc on descend pour manger la soupe, et évidemment, entre le moment où on s'assoit à table et au moment où on commence à manger, il s'écoule quelques minutes, et où on est dans le noir à l'extérieur, et puis à l'intérieur, un salon qui bouge, quoi, même si c'est pas bougé dans tous les sens, c'est un salon qui bouge. Et moi, les 5 minutes, ça suffit. Ils me servent de la soupe et ça sentait trop bon et j'étais trop désolé. Ils avaient fait une trop belle salade et je leur dis voilà, ça va pas être possible. Je prends mon petit bol, je vais à l'extérieur et le temps de sortir du salon et de monter sur le flybridge, je me mets sur le bord du bateau et puis je fais un petit vomito de ma barre de céréales que j'avais mangé un petit peu avant. Super discret, super mignon, hop, un petit coup, et puis je continue ma route en me demandant, mais qu'est-ce que c'est cet enfer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'arrive en haut, donc évidemment, j'arrive pas à manger. Et ouais, c'est à ce moment-là que je remets en question tout mon voyage. Je savais que je pouvais avoir le mal de mer, mais je pensais pas d'une que ce serait sur ce genre de bateau, et de deux, j'étais pas sûr de m'amariner, donc la marinage, c'est au bout d'un moment le mal de mer passe parce qu'on s'habitue au mouvement du bateau. Et à cette époque-là, j'étais pas sûr de pouvoir m'amariner. Donc il y a ce petit stress en plus qui augmente le mal de mer d'ailleurs. Et voilà, je reste en haut tout seul. En plus, il faisait froid et j'essaye de manger ma soupe tant bien que mal. Après le repas, il y a le capitaine qui arrive et qui me dit ton quart de nuit, tu vas pas le faire et tu vas te reposer maintenant. Comme ça, demain tu seras en forme. Alors, faut savoir que si moi j'étais sur ce bateau, c'était pour réaliser les quarts de nuit et puis les quarts de jour pour cuisiner évidemment, pour faire la vaisselle. Mais mon utilité principale et le fait qu'il ait pris un équipier sans expérience comme moi, c'était que la nuit je pourrais être sur le bateau et surveiller que tout se passe bien et réveiller le capitaine si ça se passe mal. Qu'est-ce qui peut mal se passer au milieu de l'Atlantique? Franchement, pas grand-chose en termes de navigation parce que on croise pas beaucoup de bateaux non plus. Mais parfois les vents changent, parfois il peut y avoir des problèmes électroniques, donc faut être là au cas où. Il peut y avoir des orques et donc il faut surveiller, il faut voir s'il n'y a pas par exemple des conteneurs dans l'eau ou des bateaux fantômes qui sont des bateaux à la dérive. Donc c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui reste en haut toute la nuit et qui surveille. Donc nous, on était 5 et PA est arrivé un petit peu après. Donc c'est-à-dire qu'on faisait des quarts de 2 heures. Donc pendant 2 heures, on est éveillé et on surveille que tout se passe bien. Et ensuite, on va se reposer. Il y a tout le monde qui fait son tour. Donc Dieu, Filou, Capitaine Barbossa, Calypso. Et ensuite, c'est de nouveau mon tour. Puis pendant 2 heures, je reste éveillé. Et ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, cette première nuit, j'ai pas fait mon quart. Je descend, tout le monde était parti se coucher, toujours avec le mal de mer, hein. Il faut savoir que le bateau bougeait, donc faut se tenir de partout. Je descends et là je vais aux toilettes, donc moment que j'avais repoussé parce que les toilettes c'est un endroit assez particulier sur un bateau. Si le bateau est à peu près stable, une fois qu'on est aux toilettes, le bateau bouge dans tous les sens. Le bateau c'est les toilettes c'est une petite boîte où on voit rien du tout, où ça bouge dans tous les sens, où la serviette elle se balade, où la brosse à dents fait ting 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 ting. Et une fois qu'on est aux toilettes dans cette petite boîte, bah c'est l'enfer parce que ça bouge dans tous les sens. Et donc moi j'ai essayé d'écourter au maximum le pipi du soir. Je sors de là complètement barbouillé et encore barbouillé, c'est peu dire. Je cours dans ma chambre, je m'allonge, j'attrape un seau bleu au passage et je vomis toute cette petite soupe. Et là, je m'allonge en s'allongeant. C'est là qu'on ressent le moins les effets du mal de mer. Je sais pas pourquoi, on est allongé, ça se ressent moins. Et après avoir vomi, je mets mon vomi de côté sur ma bassine. Je prends même pas le temps de nettoyer ou quoi. Et ouais, c'est l'enfer. Je me demande dans quel pétrin je me suis mis. L'avantage avec le mal de mer, c'est que c'est facile de s'endormir vu qu'on est déjà complètement désorienté. Je m'endors rapidement, jusqu'au lendemain. Et voilà, donc on est arrivé, donc ça a continué, ça s'est estompé petit à petit. Je me suis jamais senti bien. J'attendais la première halte qu'on a fait à La Corogne, qui est une ville en Espagne, avec une impatience incroyable. J'avais jamais attendu un moment d'arriver dans le port et d'être sur du plat. J'étais tellement heureux de mettre les pieds sur la terre ferme. Ça m'a fait un bien fou. Et aussi, bah, ça fatigue d'être malade, donc et d'être sur un bateau pour l'une des premières fois de sa vie, ça fatigue. On n'est pas habitué. Donc petit stop à La Corogne qui a fait bien plaisir. On s'est posé 3 jours et après c'était reparti. Pour repartir, les conditions étaient un peu meilleures déjà parce qu'il faisait plus chaud et puis je savais à quoi m'attendre et puis j'avais voilà c'était pas la première fois que je montais sur ce bateau, j'étais un peu moins stressé donc ça augmente moins le mal de mer et on a longé les côtes et surtout la houle qu'on avait de face en quittant La Rochelle, là on l'avait de dos donc c'était des mouvements bien plus agréables et là franchement ça allait beaucoup mieux. Et là, on a été jusqu'à Cascais où j'ai commencé mon lobbying. Donc Cascais, c'est une petite ville au Portugal, pas loin de Lisbonne. Et je savais qu'il y avait possibilité qu'on s'y arrête pour faire quelques courses avant de rejoindre les Canaries. Et moi, j'ai commencé à insister parce que je voulais absolument prendre des pastels de nata. Je trouvais ça dommage de longer les côtes du Portugal pendant 2-3 jours et pas faire un arrêt. Finalement, on a fait un arrêt, on a fait des courses. J'ai été acheter mes pastels de nata. C'était une halte de 3 heures à Cascais au Portugal, mais c'était toujours bon à prendre pour se rappeler que c'est quand même mieux d'être sur la terre ferme. Ensuite, on est parti de Cascais, du coup, on a longé les côtes, et je me disais que j'étais tiré d'affaire pour le mal de mer, parce qu'en général, on dit que ça prend 2-3 jours, et les conditions étaient très bonnes, donc je pensais être tiré d'affaire, jusqu'à ce qu'on passe le détroit de Gibraltar, et en dessous du détroit de Gibraltar, il y avait un vent d'Afrique du Nord qui venait nous taper sur le côté, ça créait des vagues qui venaient de la gauche, et il y avait la houle de l'Atlantique qui venait de derrière, et donc les deux, ça faisait quelque chose de croisé. Et là, rebelote, je commence à être complètement malade. J'essaye tous les médicaments parce que je m'étais renseigné du coup. Gingembre, bracelet d'acupuncture, je prends des médocs et tout. Ce qui fait que c'est mieux quand même. J'ai pas revomi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on dit là, les F, peut-être que vous connaissez ça. On dit que pour pas avoir le mal de mer, il faut pas être fatigué, faut pas avoir la frousse, faut pas avoir faim, faut pas avoir froid, faut pas avoir foif. Donc pour la soif. Et je me rends compte que tout ça, c'est n'importe quoi, parce que bah, il y a bien un moment où on sera fatigué, il y a bien un moment où on aura faim, il y a bien un moment où, je sais pas, peut-être les conditions, ça donne la frousse. Et en fait, dans tous les cas, si on doit être malade, on sera malade. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Il faudra passer par là en espérant qu'on s'amarine. Et donc moi, j'étais de nouveau malade. Donc pour l'instant, j'étais pas à mariner. On arrive aux îles Canaries. Donc ça, c'était encore après quelques jours. On était parti depuis 10 jours, 12 jours peut-être de La Rochelle. On arrive aux Canaries et pour faire une petite pause d'une semaine. Et là, on croise plein plein de bateaux stoppeurs, dont des bateaux stoppeurs que j'avais rencontrés à La Rochelle, qui eux avaient trouvé un bateau. On les croise ici aux Canaries, donc c'était marrant parce que eux étaient sur un bateau et moi je cherchais un bateau. Et là, c'était un peu l'inverse. On fait des courses, on fait des petites randos parce que donc on était à Grande Canaria, donc à la ville de Las Palmas sur l'île de Grande Canaria aux Canaries. Et c'est une des choses que j'ai trouvé le plus chouette dans ce voyage, c'est que on arrive dans un endroit qu'on n'a pas envisagé, qu'on n'a pas imaginé, parce qu'on a été déconnecté pendant tout le trajet. En fait, on arrive dans une ville, dans un endroit qu'on ne connaît pas, on n'a aucune image en tête, on sait à peine le langage parlé, quoi, la langue parlée. Et donc, on découvre tous les sens, les 5 sens sont mobilisés, on arrive, on voit que ça parle espagnol, on voit à quoi ça ressemble, on goûte au tapas. Je trouve ça vraiment génial d'arriver dans un endroit sans savoir en fait où on arrive, puisqu'on n'en a aucune idée. Et c'était vraiment la partie la plus intéressante du voyage, je trouve. Enfin pas la plus intéressante, mais les haltes qu'on a fait au fur et à mesure. Et donc Grande Canaria à randonnée. On a été faire une petite balade à Maspalomas aussi avec mon ami PA. On a fait ça un petit aller-retour en stop. Et on avait un petit problème de moteur, c'est pour ça que le séjour s'est éternisé. Mais le moteur a été révisé. Et finalement, on est reparti en direction du Cap-Vert. Et là, pour aller au Cap-Vert, c'était vraiment la meilleure partie de la traversée, je dirais, parce qu'il y avait tous les dauphins le long de la côte mauritanienne et de la côte sénégalaise. Il y avait plein, plein, plein de dauphins. Genre vraiment, tous les jours, on en avait plein. C'était vraiment un festival. Il y a des moments où on en avait mais peut-être 20 sous le bateau. C'était super chouette. Il commençait à faire de plus en plus bon, voire chaud. On avait des super couchers de soleil. Et petit à petit, je commence à m'amariner et puis ça commence à aller de mieux en mieux. Je suis capable de cuisiner, donc j'ai fait des crêpes. J'ai cuisiné pour remercier un peu l'équipage qui avait cuisiné jusque-là plus que moi. Donc là, j'ai pu un petit peu me rattraper. Et c'est là qu'est arrivé le meilleur moment, je dirais, de la traversée. C'était un moment où, c'était un moment où j'étais en quart de nuit. Et il y avait des étoiles donc de fou, il n'y avait pas un seul nuage. On voyait vraiment toutes les constellations. Moi, j'avais téléchargé une petite carte pour pouvoir repérer les étoiles et j'ai été capable pour la première fois de ma vie de toutes les repérer, que ce soit Gémeaux, que ce soit la Grande Ourse, Orion évidemment, Cassiopée, toutes les étoiles que je connaissais déjà. Et puis après, je pouvais voir le Taureau, le Scorpion, le Dragon, toutes les étoiles les constellations qu'on voit moins. Là, je les vois et je baisse les yeux. Et là, il y a des dauphins qui nageaient autour de nous. Et il y avait dans l'eau des planctons bioluminescents. Donc des planctons bioluminescents, c'est des planctons qui, quand ils sont agités, ils scintillent comme des étoiles. Et vu qu'il y avait des dauphins qui étaient sous l'eau, eh ben, ils faisaient remuer tous ces planctons. Et c'est comme s'il y avait des petites torpilles, donc des petits dauphins qui secouaient les planctons. Et donc c'était illuminé en haut, en bas. On était au milieu de l'océan Atlantique, perdu. Moi, j'arrivais au Cap-Vert, donc j'étais trop heureux. C'est un peu comme si la traversée était finie parce que le plus dur était passé. Il y a tout ça en même temps et c'est là la première fois que je me suis dit, mais quel bonheur, genre. C'est comme si toutes les maladies que j'avais eues sur la route méritaient en fait ce moment-là et c'était absolument génial. Rien que pour Canaries Cap-Vert, il faut faire une transatlantique tellement c'était super, sans compter les couleurs qu'on voyait tous les soirs au coucher de soleil. À chaque fois, c'était des spectacles vraiment uniques. Donc ça, c'était vraiment une partie super chouette. Parce qu'après, on arrive au Cap-Vert. Et encore une fois, c'était génial parce que le Cap-Vert, moi, je mettais aucune image là-dessus. C'est vraiment une île que je connais pas, que personne connaît de toute façon, je pense, à part les personnes qui suivent ce podcast et qui ont écouté l'épisode avec Vanessa au Cap-Vert. Mais c'est assez méconnu, genre c'est des volcans, c'est plein de petites îles avec des volcans un peu partout. Il y a un côté très vert, il y a un côté très sec selon les îles. Et donc nous, on arrive, on savait à peine la langue qu'ils parlaient, ça parlait un peu créole, ça parlait portugais. On découvre des plats dont on n'avait jamais entendu parler. On voit des paysages qu'on soupçonnait pas. Ça ressemble même parfois à l'Amérique du Sud, les sortes de cultures en escalier. On fait des randos avec mon ami PA. On rencontre du monde. On fait des bivouacs et tout. Vraiment une expérience super super sympa. On va sur l'île de São Antão et ça fait du bien un peu de voir du vert. On fait des randos de fou alors qu'on n'avait pas fait de sport depuis 3 4 semaines, donc on avait vraiment les jambes en coton. Ça, il faut y penser aussi, c'est que quand t'es assis toute la journée sur un bateau, bah t'arrives et tu fais une rando où tu montes 1600 mètres. Franchement, c'était pas facile. Au Cap-Vert, on a rencontré le Cirrus. C'est un équipage qui eux aussi s'apprêtaient à traverser l'Atlantique, donc ils étaient trois et on a passé des super moments avec eux, avec d'autres personnes qu'ils avaient rencontrées sur les pontons. Faut savoir que pour la transatlantique, tout le monde connaît tout le monde parce que les bateaux avancent un petit peu ensemble et on se croise aux marinas et il y a des équipages plus ou moins sympas. Il y en a d'autres à qui on n'a pas parlé, qui étaient très fermés et eux avec qui on a passé des super bons moments. Ils ont traversé l'Atlantique juste après nous. Et donc ouais voilà, donc on a fait notre rando et au retour de la rando, on apprend que Filou, donc l'ami du capitaine, Filou a une otite, une grosse otite, et ça nous repousse le départ de un jour alors que nous on avait fait les courses, on était prêts à partir. Lui, il a une otite parce qu'il s'est baigné et donc on se demande s'il va venir avec nous. C'est pour ça qu'on commence à recruter quelqu'un pour le remplacer. Donc, je vais l'appeler Ariles, la personne qu'on a recrutée. Et du coup, au lieu de le couple de Calypso et Captain Barbossa, on les a laissés au Cap-Vert parce que eux, ils continuaient vers le Sénégal. Et donc, on recrute Ariles et on se retrouve avec un équipage de 5 si la personne qui a une otite vient avec nous. Là-dessus, on apprend que Filou n'a pas le droit de prendre l'avion parce qu'il a une otite et donc il va traverser l'Atlantique avec nous. Ça a été un choix qui a été un peu regretté par la suite parce que c'est dangereux quand même de prendre quelqu'un qui a une otite. Si jamais ça s'aggrave, ça met quand même un stress de fou à l'équipage et au capitaine. Et surtout, c'est une personne malade qui est à bord, donc c'est pas génial c'est pas génial d'avoir quelqu'un qui se sent pas bien à bord. Bon, d'une part, évidemment, il contribue pas au quart et tout. On se retrouve avec un équipage de 4 alors qu'on est 5. Et d'autre part, on est tous un peu inquiets. On se demande si ça va aller, quoi. On se demande si on va pas devoir faire appel au secours, si son otite s'aggrave. Et sauf que l'ami du capitaine, donc Philou, c'est lui qui devait aller jusqu'aux îles Vierges britanniques et revenir en avion en Martinique. Parce que c'est lui qui devait accompagner le bateau jusqu'au bout, et il y a que deux personnes qui accompagnent le bateau et qui se font payer l'avion par l'entreprise qui réceptionne le bateau aux îles Vierges britanniques. Et comme moi j'étais plus intéressé par venir en Martinique que aller en Guadeloupe, la décision est prise de s'arrêter en Guadeloupe pour déposer les deux équipiers, donc Ariles et PA, et moi je vais continuer avec le capitaine pour aller jusqu'aux îles Vierges britanniques, et ensuite on prend un avion pour rejoindre la Martinique. C'est comme ça que ça a été décidé, comme ça tout le monde est content, les deux qui voulaient aller en Guadeloupe vont en Guadeloupe, le dernier qui voulait aller en Martinique, le dernier, bah Philou, lui il va prendre un bateau de Guadeloupe à Martinique, et nous on va jusqu'aux îles Vierges britanniques, et puis on revient en avion payé par l'entreprise de convoyage. Donc ça reste du stop, mais en avion, j'en parlerai un petit peu après. Donc on est parti le 25 février à 11h. On est parti pour la grande traversée. Et là, j'ai commencé à être malade dès le début, parce que voilà, j'ai pas voulu perdre de temps. Dès le début, on avait des conditions vraiment pas chouettes, et j'en avais marre d'être malade, donc j'ai pris un médicament, j'ai été me coucher direct, j'ai fait une nuit entière, j'ai pas mangé. Et le lendemain matin, c'est PA qui avait fait à manger pour tout le monde, parce que j'étais pas le seul à être malade. Et après ce premier jour de maladie, bah tout le reste, j'étais en super forme. J'ai pu cuisiner, j'ai pu faire des crêpes, voilà, c'était super super ambiance, et tout s'est bien passé pour la suite. La traversée du Cap Vert jusqu'au Caraïbes, c'est 2000 milles nautiques, et donc à 5,5 nœuds de moyenne, c'est ce qu'on avait. Ça nous a pris 2 semaines. Et en fait, c'est marrant de se lancer dans cette aventure parce que c'est un petit peu un moment qui est craint, je pense, par tout le monde quand on part pour une transat. On se demande comment on va réagir quand on sera au milieu de l'océan, parce que c'est pas rien d'être distant de 1000 nautiques avant et après. On n'a croisé aucun bateau pendant 2 semaines. Donc c'est une expérience que tout le monde craint un petit peu, j'imagine. Et nous, on était partis. Et normalement tout devait bien se passer parce qu'on avait tout prévu, la sécurité, tout allait bien, on avait plein d'eau, on avait beaucoup à manger, on avait une super équipe. Et les jours se sont succédés comme ça. Les deux premiers jours, on est un peu excités, on a des petites choses à faire sur le bateau, on s'amuse quoi. Mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, moi je commençais à m'ennuyer, mais alors avec une sévérité. Franchement, les journées sur un bateau, c'est tu te réveilles relativement tard parce que t'as été réveillé la nuit pour faire ton quart de nuit. Donc tu te réveilles autour de 10-11 heures, réveillé par la chaleur qui tape sur le bateau. Faut savoir qu'on était pratiquement proche de l'équateur, donc il fait super chaud, et il y avait pas trop de vent, on n'a jamais eu trop de vent pendant cette traversée, donc il faisait jamais trop frais. T'arrives à midi, tu cuisines pour le repas du midi, et vers 14 heures, après avoir fait la vaisselle et tout, bah franchement, t'as plus rien à faire jusqu'à 18-19 heures avant de cuisiner pour le repas du soir. Donc moi, j'étais pas malade, mais j'étais pas assez en forme pour pouvoir lire sur le bateau. Donc franchement, de 14 heures à 19 heures, là, les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e jours, c'était si long. Je me suis demandé encore une fois pourquoi je m'étais lancé dans cette aventure. Je me demandais pourquoi j'avais fait du bateau stop où c'était franchement pas agréable, pour ensuite être sur un bateau où c'est franchement pas agréable d'être malade ou bien de s'ennuyer. Et je remettais en question mes choix. Je me disais, mais en fait, je ne fais que des choix qui me font souffrir. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre un avion et arriver directement en Amérique du Sud, et l'expérience serait quand même bien meilleure. En fait, un autre truc qui est super chouette dans une traversée, c'est qu'on a énormément de temps pour réfléchir. Ne serait-ce que pendant les quarts de nuit. Moi, je passais peut-être la moitié de mon quart. Faut pas que je le dise à mon capitaine. Peut-être qu'il écoutera pas cet épisode, j'espère. Mais je passais beaucoup de temps de mon quart, vu qu'il y a rien à faire au milieu de l'Atlantique et qu'on avait un pilote automatique, à regarder les étoiles. Donc, je faisais des petits exercices sans regarder ma carte et tout, je les repérais. J'ai vu la constellation du lion et elle est assez rare à voir la constellation du lion parce que faut vraiment qu'il n'y ait pas d'éclairage. Donc voilà, je regardais mes petites étoiles la moitié du temps et l'autre moitié du temps, bah, j'étais assis à juste réfléchir sur ma vie, à réfléchir sur mes choix, sur mon voyage. Et je pensais énormément à mes amis qui eux sont restés en France ou à l'étranger mais qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui mettent de l'argent de côté pour des investissements ou pour partir en voyage, ne serait-ce que pour un week-end ou une semaine tous les mois ou tous les 2 mois. Et je me demandais à ce moment-là si j'avais fait le bon choix, parce que à ce moment-là, je gagne pas 1 euro par mois, par jour. Et ouais, c'était une grosse réflexion où je me disais, est-ce que je fonce pas dans le panneau? Ou est-ce que j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire, de découvrir le monde marin, de découvrir de nouvelles îles, de faire ça pendant que mes autres amis préparent l'avenir. Et voilà, bah c'était une partie chouette, chouette du voyage, c'est de pouvoir prendre le temps de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on fait. Et c'est vrai que dans la vie, quand on est pris par le quotidien, par les réseaux sociaux et tout, on a moins le temps d'y penser, alors que là, vraiment coupé du monde. J'avais le temps et ça, c'était une partie que j'ai beaucoup aimée dans ce voyage. Au bout d'une semaine de navigation, on a vraiment des conditions idéales pour aller se baigner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pet de vent, on a replié toutes les voiles, on a éteint les moteurs parce que faut savoir que pendant notre transatlantique, on avait toujours un moteur qui tournait, soit à gauche, soit à droite, parce que on a eu des conditions assez catastrophiques. Pas catastrophique dans le sens mauvaise, mais catastrophique dans le sens où on n'avait vraiment pas beaucoup de vent. Au début, on en avait, mais il y a eu des moments vraiment où c'était la pétole, comme on dit. Ce qui est bien parce que il n'y avait pas de vagues, donc pour le mal de mer, c'est super. Mais ce qui est pas bien parce que on n'avançait pas comme le capitaine le souhaitait, bah, il y avait toujours un moteur qui tournait. Et donc là, cette fois-là, vu que c'était vraiment la pétole totale, le capitaine éteint les moteurs, il enlève les voiles, qui servaient pas à grand-chose, soyons honnêtes, et on a pu se baigner avec 5000 mètres de fond. Et ça, c'est vraiment une expérience unique. Au début, j'avais un petit peu peur. Je me disais, oula, est-ce que j'ai vraiment envie de me baigner? Et du coup, je demande à Arriles et PA. Je leur demande, ouais, vous êtes chaud? Et eux, ils n'avaient pas peur du tout. Ils ont fait, ouais, carrément et tout, on va se baigner. Donc c'est bien, on était à trois à se motiver à aller se baigner. Et vraiment une expérience super. Et c'était idéal pour célébrer le mi-chemin, parce qu'on était vraiment à mi-chemin entre le Cap-Vert et les Antilles. Et donc on se dit, on va faire un super repas pour fêter ça. On va manger un pavé de thon avec une petite purée et en dessert, ça devait être gâteau au chocolat. Donc on prépare les ingrédients, on prépare, voilà, on est d'accord sur le menu et tout, et on commence à préparer la cuisson. Et là, PA, il allume le gaz pour faire chauffer l'eau. Et là, il fait, les gars, je crois qu'on a un problème. Et je me rappelle très bien du moment, il y avait le capitaine qui était assis à la table, moi qui étais en train de d'éplucher les patates et PA qui était au niveau du gaz. Et là, on regarde le gaz et on fait, il y a plus de gaz. Et il fait, bah non, je crois pas. On vérifie toutes les vannes, on vérifie la bonbonne et on avait effectivement plus de gaz. On était au milieu, mais exactement au milieu de l'Atlantique. On peut pas faire plus au milieu que ça. Et on se retrouve en pénurie de gaz. Et là, c'était assez intéressant ce qui s'est passé parce qu'il y a eu plusieurs réactions. Donc il y en avait un qui était inquiet, qui commençait à se poser plein de questions si on allait avoir à manger. C'est comme si on avait deux teams. Donc le capitaine, lui, il était vraiment à l'extérieur de tout ça. Il était resté concentré sur le bateau. Ça a été son rôle tout le long. Lui, c'était de prendre soin du bateau et de la navigation et de la météo. Sans cesse, il était en train de vérifier que les conditions météo, que le bateau va bien, que tout se passe bien. Il vérifiait vraiment sans cesse. Et nous, on était en charge, donc les quatre autres, on était en charge de gérer le bateau et puis la vie à bord. Donc lui, il reste dans son rôle. Et au milieu des quatre équipiers, donc Filou, moi, PA et Arilès, bah, il y a comme deux teams qui se sont créés. C'était assez intéressant sociologiquement, je trouve. C'est que il y avait Filou et moi qui étions d'avis de manger ce qu'on peut manger, qui est bon à manger maintenant. Et puis PA et Arilès, eux, ils étaient plus pour un rationnement et étaler les bonnes choses sur la semaine qui nous restait, donc il nous restait 8 jours de navigation, alors que Philou et moi, on voulait manger les bonnes choses d'abord et passer les 3, 4 derniers jours ou 3 derniers jours avec les mauvaises choses, les trucs pas bons, genre le riz cru et les pâtes crues. Donc manger tout ce qui est comestible cru et ensuite se débrouiller pour les jours qui restent. Moi, ma mentalité, c'était on est au milieu de l'Atlantique, on va pas manger du riz cru maintenant, alors que on a des super trucs à manger dans le frigo et puis et des salades et tout à faire. Alors que les autres disaient, ben, on va étaler, comme ça tous les jours on a un bon repas et un mauvais repas pour étaler jusqu'à la fin. Le truc, c'est que Arilès et PA, ils ont très rapidement pris les choses en main. Ils ont fait un inventaire de tout ce qu'on avait à manger. Ils ont regardé les quantités qu'on devait avoir pour les 15 derniers repas qui nous restaient. Ils ont fait des calculs et tout sur un tableau. Et donc, très rapidement, bah, je les ai, moi et Filou, on les a laissés faire. On s'est dit, bon, bah, ils vont faire comme ils veulent. De toute façon, on va pas être en conflit en mode chacun fait son repas et on a des quantités assez précises. D'ailleurs, je me rappelle d'une très belle phrase de Arilès qui a dit c'est 1,8 tranches de pain par personne parce qu'on avait, il nous restait quoi, 5 pains de mie. Et c'était 1,8 tranches de pain par personne et par jour. Si jamais on voulait avoir nos 1,8 tranches de pain par personne et par jour jusqu'à la fin. Et donc, ça nous faisait rire avec Philou. On disait, mais au pire, on mange tout le pain tant qu'on a du pain. Et à la fin, on n'aura plus de pain et c'est pas grave. Et Arilès voulait vraiment qu'on étale ça. Et lui, il était vraiment inquiet. Par le fait qu'il fallait, enfin, même il voulait manger le pâté, il voulait que chacun mange 5 grammes de pâté par jour et pas plus, donc ça faisait en gros une tranche sur un mini toast et ça pour qu'on ait du pâté tous les jours quoi. Et ouais, du coup ça, socialement c'était intéressant la séparation. Je dirais que Philou et moi on s'est un peu écrasé, que on faisait des petites vannes de temps en temps, mais on a accepté et puis bon bah, s'il fallait manger du riz cru alors qu'on avait plein de bonnes choses à manger, ben bah, on allait manger du riz cru. Il s'est avéré que ils avaient raison. Finalement c'était super d'avoir des trop bons repas une fois par jour et puis un repas un peu moins bien qui restait quand même très bon le reste du temps. Donc merci à vous les gars d'avoir géré ça. J'avoue que si moi j'avais pris les choses en main, ça aurait été bien plus catastrophique. Je pense que on n'aurait pas mangé pendant 2 jours. En vrai, les 2 premiers jours de la pénurie, donc les jours 8 et 9, pénurie de gaz, c'était franchement pas facile. Moi, j'avais super super faim. Notre premier repas, ça a été du riz cru avec des haricots verts qu'on avait dans le congélateur, parce que oui, on avait un congélateur. Donc riz cru avec haricots verts, mais très très peu. C'était vraiment des quantités trop petites quoi, trop petites pour être sur un bateau et déjà, enfin, ça augmente le mal de mer d'avoir faim. Donc il y a eu 2 jours vraiment compliqués et le reste du temps, qu'est-ce qu'on a mangé sans gaz? On a mangé la semoule qu'on a fait gonfler avec de l'eau froide et ça gonfle très bien avec de l'eau froide. Donc ça a beaucoup de semoule, beaucoup de salade aussi parce qu'on avait encore des restes de salade, on avait plein de boîtes de conserve qu'on a pu manger cru. On avait du pain de mie aussi, on avait des tortillas, ça aussi ça nous a fait 2-3 repas, on avait beaucoup de tortillas. Et en fait quand on est arrivé donc en Martinique, il nous restait plus un seul repas, donc tout a été super bien calculé. Bravo les gars. Il y a eu mon anniversaire aussi, donc le 8 mars, on était au milieu de l'océan encore, c'était mon anniversaire, et PA, encore lui, il avait pêché un super poisson, une dorade coryphène qui était assez énorme. En réalité, il en a pêché 3, mais il y en a 2 qui sont partis, et celle-là, on a réussi à l'attraper ensemble. Donc, il avait pêché quelques jours avant, congélateur, et il a fait cuire dans du citron, et c'était vraiment un repas excellent. Moi, en parallèle, j'ai fait un houmous, parce que le houmous, c'est que du pois chiche et du jus de citron et de l'huile d'olive. Et ça nous a fait je pense, le meilleur repas sans gaz. C'était le repas de mon anniversaire. Donc, j'étais trop content, moi, de pas avoir un anniversaire triste, quoi. Et puis, en dessert, une petite mousse au chocolat, parce que on avait acheté 120 œufs pour toute la traversée, donc pour 5, pour 15 jours. Et on avait eu le temps d'en manger à peine 30 la première semaine. Et donc, on s'est retrouvé avec 90 œufs à devoir écouler sans gaz. Donc là, ça a été mousse au chocolat sur mousse au chocolat par notre ami PA. Et ça, c'était vraiment un super repas d'anniversaire. Et en fait, très rapidement, vu qu'on avait faim et tout, on s'est mis à parler de burgers. Mais genre, tous les jours, on parlait de burgers. Tous les jours, on parlait de McDonald's. Alors qu'en temps normal, on n'en aurait jamais parlé. Mais là, on parlait de burgers, de McDo, de repas chauds, de pâtes à la carbo, de pâtes bolognaises. Genre, tout nous faisait saliver. On avait tellement envie d'un repas chaud. En plus, il faisait super chaud à l'extérieur, donc c'était vraiment absurde d'avoir faim à cause d'un manque de gaz et d'eau chaude, alors qu'on mourait de chaud et que en réalité on aurait voulu juste des salades, mais là on voulait des repas chauds. Et voilà, donc le voyage s'est passé comme ça jusqu'à la fin avec les repas dont j'ai parlé. Et paradoxalement, le top du voyage, dirais-je, genre ce qui était les meilleurs moments où je me suis vraiment détendu, bah c'était la semaine où on n'avait pas de gaz parce que on avait des super couchers de soleil face à nous. On commençait à voir l'eau bleue turquoise des Antilles. On avait les dauphins qui revenaient petit à petit. Et en fait, on savait qu'on arrivait dans quelques jours. Donc, même si on n'avait plus de gaz et qu'il restait quelques repas à gérer, bah le trajet était presque fini, quoi. On avait réussi. On était arrivé dans des eaux où on pouvait être secouru s'il y avait un problème. Et ouais, tout le monde se détendait et ça créait une super ambiance et on se retrouvait tous les soirs en haut à écouter de la musique et à profiter des spectacles que nous offrait la nature. Et en fait, rien que pour cette dernière semaine, encore une fois, la transatlantique et les difficultés qu'on a eues au début méritaient d'être vécues. Au cours de la route, parce que le capitaine avait une connexion pour recevoir des SMS, au cours de la route, on a appris qu'il fallait qu'on passe en Martinique pour recevoir un désalinisateur à livrer aux îles Vierges britanniques. Donc finalement, on s'est arrêté en Martinique, où on a passé juste une nuit, où on a pu prendre un gros burger et puis prendre une bouteille de gaz, donc on était refait. Un jour après de navigation, on est passé par la Guadeloupe pour déposer Ariles et PA. D'ailleurs, on avait déposé Philou en Martinique. Et là, on s'est retrouvé juste le capitaine et moi pour une trentaine d'heures de navigation. Et en fait, en termes de conditions, c'était vraiment les pires conditions qu'on ait eues parce que avec les îles, il y a un effet venturier. Le bateau secouait dans tous les sens pour monter au nord. Et moi, j'étais à mariner. Et du coup, il n'y avait aucun souci. J'ai cuisiné des crêpes. J'ai fait des crêpes et des crêpes et des crêpes. J'ai fait toutes les viandes qu'on avait au congélateur, qu'on n'avait pas mangé pendant la traversée, tous les œufs et tout. Je faisais que de cuisiner des trucs au gaz et tout. Enfin, on était trop contents de bien manger pour se remplumer un peu après avoir pas beaucoup mangé pendant la semaine d'avant. Et on a avancé comme ça vers les îles Vierges britanniques. J'étais trop content parce qu'on est passé à côté des îles Montserrat. Donc c'est un volcan en activité, c'est une île. On est passé à côté de Saint-Christophe et Niévès aussi. On a vu au loin d'autres petites îles et on avançait comme ça. Et surtout, j'étais avec le capitaine et il y avait vraiment un travail d'équipe, quoi. Lui, il faisait ses quarts, je faisais mes quarts et on était juste tous les deux et c'était trop agréable d'avoir la responsabilité du bateau, d'être les deux derniers, quoi, qui livrions le bateau au bout. J'étais trop content de finir le travail, quoi. J'avais récupéré le bateau à La Rochelle et je l'amenais jusqu'aux îles Vierges britanniques. On a fait une nuit comme ça où toutes les 2 heures, on faisait un quart de nuit. Je me sentais vraiment un vrai équipier. Et après, on arrivait aux îles Vierges britanniques. Et là, c'est moi qui devais gérer tous les accostages. Donc, le capitaine me briefait. Il me disait, ouais, là, on va arriver comme ça. Tu sautes, tu lances la mare. Ensuite, tu fais ci, ça. Et j'étais vraiment un équipier de compète. Donc, j'étais assez content de cette partie-là. On est arrivé aux îles Vierges britanniques, où j'ai pu découvrir les îles Vierges, j'ai pu aller me balader autour, d'aller faire une petite randonnée rapidement. Les îles Vierges britanniques, d'ailleurs, si vous vous demandez, c'est assez particulier parce que c'est des îles, donc déjà c'est un paradis fiscal, donc et puis c'est une île, donc tout coûte super cher. Il y a que des touristes américains ou anglais, vraiment tout coûte super cher. Et ça a été fait ravager par un cyclone, le cyclone Irma, et du coup c'est vraiment, abandonné, tout est super abîmé. Il y a encore plein de restes de ce cyclone qui a vraiment tout détruit. C'était vraiment une expérience trop trop bizarre d'arriver dans une île où tout coûte super cher et où les maisons sont délabrées, où il y a des voitures abandonnées un peu partout, où il y a plein de choses cassées. Nous, on n'a pas fait la partie touristique, je pense, que tout le monde fait quand ils vont aux îles Vierges britanniques, c'est-à-dire les hôtels de luxe avec piscine. Nous, on a vraiment été dans les villages, marchés. Auprès des gens normaux, quoi. Et ouais, ça faisait de la peine à voir une île complètement dévastée où un ananas c'est 4 €, une canette de coca c'est 2 € en supermarché, quoi. C'était vraiment une expérience particulière. Et du coup, aux îles Vierges britanniques, bah là on a pris l'avion. Donc à la base je voulais faire un tour du monde sans avion et on stoppe seulement. Là, c'était du stop parce que c'est l'entreprise qui a payé le bateau, l'avion jusqu'en Martinique, mais c'était pas sans avion. Donc moi, ça m'arrangeait parce que j'allais en Martinique alors que de base c'était pas prévu. Donc ça m'arrangeait bien. Mais bon, j'ai pris l'avion de. On a été jusqu'à Saint-Martin et ensuite on est arrivé en Martinique. Donc j'ai vu Saint-Martin, j'étais content aussi. Mais malheureusement, ce ne sera pas un tour du monde sans avion, même si on peut considérer que l'avion c'était du bonus vu qu'on est arrivé en Martinique et on est retourné en Martinique. Donc ça, à voir à chacun de juger si mon voyage était un voyage sans avion, parce que mon itinéraire était sans avion. Alors j'espère que je me suis pas trop étalé, que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de faire une transatlantique. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Spotify ou Apple Podcast et à mettre des petites étoiles, s'il vous plaît. Merci énormément aux personnes qui l'ont fait jusque-là, parce que j'ai vu que ça a augmenté un petit peu. Merci à vous de me soutenir et on se revoit bientôt. Et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.